بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 84 dans la lecture du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. On est dans le volume 2 de l'explication, et on sait qu'il y a 5 volumes en tout. On est au volume 2 et c'est à la page 608. Naam. Et on est en train, comme on a expliqué, donc on est en train d'expliquer les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cité dans Khutbat al-Wada', le discours d'adieu qu'il a fait lors du dernier Hajj. Et dans un passage de cette khutba, il donne des conseils au sujet de la femme. Il donne des conseils au sujet de la femme, et c'est ça dont on est en train de parler maintenant. C'est le point dont on est en train de parler, et le cheikh il élabore sur les propos qui sont mentionnés dans le hadith. Donc il dit wa qawluhu wa lakum alayhinna an la yu'tina furushakum ahadan takrahunahu. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق المرأة على الزوج وذكر هنا حق الزوج على الزوجة لأن الحقوق متبادلة قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ومن حق الزوج على زوجته أن لا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه لأن البيت ملك له ولا تجلس أحدا في على فراشه ولا تتصرف بشيء إلا بإذنه. Non. Donc, la question ici, c'est le point dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les épouses ou les femmes, elles ne doivent pas laisser personne entrer dans la demeure du mari, excepté celui qu'il a agréé. C'est-à-dire, elles ne doivent pas laisser entrer quelqu'un que le mari n'aime pas ou il n'approuve pas dans sa maison. Et il dit, le cheikh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le droit des femmes sur leur mari, c'est-à-dire les droits que les femmes ont sur leur mari. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a mentionné au cours précédent. On a parlé des droits de la femme dans l'islam et certains de leurs droits. Maintenant, il dit qu'il parle du droit du mari sur sa femme. Il dit parce que les droits sont réciproques. Dans l'islam, il y a des droits de l'homme envers la femme, des droits que la femme a sur son mari et des droits que le mari a sur sa femme, et c'est des choses qui sont réciproques. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 228 dans sourate Al-Baqarah, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَلَهُنَّ, c'est-à-dire elles ont des droits مثل الذي عليهن, qui sont semblables à leurs devoirs. Elles ont des droits qui correspondent à leurs devoirs. Bil ma'ruf, c'est-à-dire, yani selon la bienséance, selon qu'est-ce qui est bien connu, de la façon dont on doit bien agir, hein, les uns envers les autres. Par contre, il dit ensuite, walirrijal alayhinna daraja, walirrijali alayhinna daraja, c'est-à-dire que les hommes ont cependant un degré au-dessus d'elles. Les hommes ont cependant un degré au-dessus d'elles. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas une égalité absolue entre l'homme et la femme dans les droits. La femme a ses droits et l'homme a ses droits. Sauf que l'homme, il a un degré supérieur, un degré au-dessus de la femme. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'homme le chef de la famille et le responsable de la femme. Et donc, dans ce sens, il ne peut pas y avoir une égalité absolue, hein, contrairement à ce que, ou à ce à quoi appellent aujourd'hui les athées et les laïcs, les gens qui n'ont pas de religion, de dire que la femme et l'homme doivent être égaux de façon absolue et dans tout. Hein, ça c'est totalement yani, inacceptable islamiquement et même yani, logiquement. Puisqu'on sait qu'il y a des différences entre l'homme et la femme et on en a parlé au dernier cours. Le cheikh il dit ensuite, وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ, et parmi les droits que l'homme a sur sa femme, c'est qu'elle n'entre pas dans, elle laisse personne entrer dans sa maison excepté par sa permission. C'est-à-dire que si la femme va laisser rentrer quelqu'un dans la maison de son mari, c'est uniquement par la permission, ouais, et avec la permission de son mari, parce que la maison lui appartient. C'est lui le propriétaire et c'est lui le chef de la maison. Et donc, elle ne laisse personne entrer sans sa permission. Il y en a bien entendu encore plus si c'est quelqu'un qui est un homme et qui n'est pas mahram. Ça c'est haram de façon générale. Mais supposons que c'est quelqu'un, par exemple, un membre de la famille qui serait un mahram, hein, même un proche de la famille, elle ne doit pas le laisser rentrer excepté si le mari a donné la permission. D'accord? Et contrairement à la façon dont vivent par exemple les koufars, on sait que pour eux il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, et donc la femme peut avoir des amis hommes, hein, l'homme peut avoir des amis femmes, et donc pendant l'absence de son mari, un de ses amis hommes vient la visiter et il s'assoit avec elle, il parle, il boit un café, il discute, et on sait qu'est-ce que ces choses-là amènent comme conséquence par la suite. La plupart des cas de, yani, comme on dit, d'adultère, ça se produit justement de cette façon-là. Et ça, c'est des choses qui sont claires. Et donc, le cheikh, il dit, لِأَنَّ الْبَيْتَ مُلْكٌ لَهُ وَلَا تَجْلِسُ أَحَدًا عَلَى فِرَاشِهِ وَلَا تَتَصَرَّفُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Donc, elle laisse personne s'asseoir sur son sofa ou son divan ou son tapis. Et elle, yani, pour chaque chose, elle, yani, qui a rapport avec la gestion de, yani, de la maison et qui est-ce qui rentre et qui est-ce qui ne rentre pas, ça c'est uniquement avec la permission du mari. Après, le cheikh il dit, wa idha nashajat nashajat al mar'a nashajat, hein, n'am, fa idha nashajat al mar'a ala zawjiha wa mana'at haqqan lahu 'alayha kal istimta' أو إدخال البيت لمن لم يأذن له أو خروجها منه بغير إذنه فإن له أن يعزرها بما يردعها أولا بالموعظة والتخويف فإذا لم تجدي الموعظة فإنه يستخدم الهجر بأن لا يكلمها ولا ينام معها في الفراش أو أن ينام معها في الفراش ويعرض عنها فإذا لم يجدي الهجر فإنه يضربها ضربا غير مبرح يعني غير كاسر للعظم وغير جارح للجلد وإنما ضرب يعني يوجد منه ألم لكنه لا يترتب عليه أثر ضار. نعم. Donc le cheikh il explique que en fait qu'est-ce qu'il explique maintenant c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le verset 34 dans sourate An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique les règles de, et l'attitude à adopter envers l'épouse lorsqu'elle est désobéissante. Et le verset en question c'est الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Qu'est-ce que ça signifie ce verset? La traduction, les hommes ont autorité sur les femmes. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a mis les hommes comme responsables et chefs sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah a accordées à ceux-ci, sur celles-ci. C'est-à-dire, Allah a donné à l'homme des mérites et des faveurs plus qu'à la femme. Et aussi à cause des dépenses que les hommes font de leurs biens. Il y en a parmi les féministes, parmi les islamistes, si on veut, hein, les modernistes, parmi ceux qui prétendent appeler à l'islam, quand ils lisent ce verset, ils coupent une partie ici. Ils disent, les hommes ont autorité sur les femmes à cause des dépenses qu'ils font, hein, de leurs biens. Comme si le seul mérite que l'homme avait sur la femme, c'était le fait de dépenser de son argent, et c'est ça qui fait qu'il a un mérite sur la femme. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a donné des faveurs, bima faddala, hein, et al-fadl, ça veut dire qu'il y a un mérite et qu'il y a, hein, une excellence et une faveur justement de l'homme sur la femme. Et lisez le tafsir de ce verset dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, le tafsir de l'imam Al-Tabari, Al-Qurtubi et les différents mufassirin, et vous allez voir que leurs clarifications et leurs explications à ce sujet-là sont yani très claires et contredisent totalement les propos de ces soi-disant féministes ou féministes musulmans, comme ils s'appellent eux-mêmes. Le verset 34 dans sourate An-Nisa. Le verset dit ensuite, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur mari avec la protection d'Allah. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, première chose, exhortez-les. Deuxième chose, éloignez-vous d'elles dans le lit. Et troisième chose, frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Donc ça c'est le verset en question. Maintenant on va lire l'explication, qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a mentionné ici. Il dit, si la femme, yani nashazat ala zawjiha, c'est-à-dire elle refuse de lui obéir dans qu'est-ce qui est son droit et dans qu'est-ce qui fait partie des choses du bien. Il lui demande et elle refuse. Et elle refuse parmi des choses qui lui sont un droit, comme par exemple le fait de pouvoir jouir d'elle sexuellement, dans le sens que c'est son épouse et il a des droits sur elle. Parmi les droits que l'homme a sur sa femme, c'est qu'il a le droit d'avoir des rapports sexuels avec elle lorsqu'il en a le besoin. Et donc, ça c'est un de ses droits. Si elle refuse, dans ce cas-là, yani, c'est quelque chose qui crée des conflits et des discordes entre le mari et sa femme. De même que si elle laisse entrer dans sa maison celui qu'il n'a pas permis, c'est-à-dire pendant qu'il est absent, elle fait rentrer des gens que lui, il n'agrée pas, il ne veut pas que ces gens-là rentrent sans sa permission, et elle le fait quand même. Ou bien, également, elle sort de la maison sans sa permission, c'est-à-dire elle s'en va dehors, puis elle fait qu'est-ce que elle va, par exemple, faire des choses, magasiner ou autre chose, mais elle y va sans demander la permission à son mari auparavant, et elle sort sans sa permission. Ça, c'est interdit. Et une des preuves que c'est interdit, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, n'empêchez pas les femmes d'aller à la mosquée, si elles veulent aller faire la salat. N'empêchez pas les femmes d'aller à la mosquée, ou les servantes d'Allah, n'empêchez pas les servantes d'Allah d'aller à la mosquée. Et les ulama ont dit, ça c'est la preuve que l'homme, il a le droit de l'empêcher de sortir. Hein? Parce que sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit, ne les empêchez pas. Hein? Et c'est pour dire que ça c'est un des droits de l'homme. Il a le droit de dire à sa femme qu'il ne veut pas qu'elle sorte, qu'il ne veut pas qu'elle aille quelque part par exemple. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'elle désobéit? Eh bien, il a recours dans ce cas-là à certains moyens qui ont été mentionnés dans le verset qu'on a lu pour la réprimander ou bien pour la remettre à l'ordre. Et parmi ces choses-là, bien entendu, la première qui est mentionnée, c'est wa'izuhun, fa'izuhun, min al-maw'idha, c'est-à-dire l'exhortation. C'est-à-dire que l'homme, il va utiliser l'exhortation, lui mentionner des choses pour l'inciter et l'encourager à faire qu'est-ce qui est nécessaire et de la décourager de faire qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. Par tarhib wa tarhib. Il va lui mentionner des choses pour l'encourager à faire le bien et la décourager à faire le mal, soit en lui montrant le bien qu'il y a dans le fait d'obéir et lui faire peur des conséquences de la désobéissance. Et parmi les conséquences de la désobéissance, il y a la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que d'obéir à l'homme, pour la femme, c'est une obéissance à Allah. Tant que l'homme ne lui ordonne pas de désobéir à Allah. Si son mari lui dit, va m'acheter des cigarettes ou bien fume avec moi, elle n'a pas le droit de lui obéir. Parce que ça, c'est quelque chose qui est haram. Mais s'il lui demande quelque chose qui est halal, de façon générale, eh bien, si c'est quelque chose de raisonnable et qu'il est capable de faire, dans ce cas-là, elle devrait le mettre en application. Pourquoi? Parce que le fait d'obéir à son mari, c'est une obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit que si l'exhortation ne produit aucun résultat et que ça ne marche pas, il l'a exhorté, il lui a parlé et il lui a expliqué, il a discuté avec elle, puis elle continue à désobéir, alors il utilise la deuxième méthode qui est mentionnée dans le verset, c'est al-hajr. Et al-hajr, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de s'écarter. Le fait de s'écarter. Et qu'est-ce qui est mentionné dans le verset? En particulier, c'est dans le lit. Wahjuruhunna fil madajir. Et le cheikh, il dit, soit qu'il ne va pas dormir avec elle, ou bien qu'il va dormir avec elle, mais il va lui tourner le dos. Il ne va pas aller vers elle, il ne va pas se tourner vers elle. Et parfois, ça peut avoir un effet positif, dans le sens que la femme, elle, sans que son mari est fâché contre elle, est en colère contre elle. Et si elle aime son mari, eh bien, en général, elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas contente de savoir que son mari est en colère contre elle et qu'il refuse de la toucher ou bien d'avoir certains comportements avec elle. Surtout au moment où il va au lit. Donc, c'est pour dire que ça peut avoir un effet positif, ça peut avoir un effet qui est bien. Mais bien entendu, il y a des situations où il y a des cas dans lesquels même ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il y a des situations où les cas c'est parfois plus compliqué. Donc le cheikh il dit ensuite, comme c'est mentionné dans le verset, dans surat al-Nisa, le verset 34, il dit, si cela, c'est-à-dire le fait de s'écarter d'elle dans le lit, ça ne fonctionne pas, et bien dans ce cas-là, qu'il les frappe. Et frapper ici, le cheikh il explique, c'est-à-dire les frapper, mais pas les frapper fort, d'une manière qui va les blesser ou qui va briser un os ou bien laisser une marque ou une blessure sur la peau. Mais non, c'est blessé dans le sens de, hein, de d'une façon qui fait mal, mais qui va pas avoir des conséquences qui vont laisser quelque chose de nuisible ou une trace ou une marque ou quelque chose de ce genre. Hein? Et c'est plus dans le but d'éduquer ou bien de, disons, de, comment je pourrais dire, de ramener la femme à sa raison. Hein? Et il y a la mention de Ibn Abbas dans le tafsir de ce verset qui mentionne de les frapper avec un bout de siwak. Un siwak, c'est un petit bout de bois, hein, avec lequel on brosse les dents. Donc, c'est pour dire que c'est symbolique. C'est pas quelque chose qui est dans le but de battre, comme on dit. Parce que battre, comme les gens disent souvent, battre sa femme, ça c'est pas permis. Il y en a des hommes qui n'ont pas de limite et qui veulent frapper des femmes comme si c'était un homme ou bien comme si c'était de la boxe. Hein? Et ça, c'est clair que c'est haram. Déjà, même un animal, t'as pas le droit de toucher dans son visage. Un animal, t'as pas le droit de frapper au visage. Donc, imagine un être humain, c'est encore pire. Et un homme, même un homme, quand tu te bats avec lui, t'as pas le droit de le frapper au visage. Parce que le visage, c'est sacré. Donc, encore moins la femme. Encore moins la femme. Et également, le but, c'est pas de la blesser. Parce que, de toute façon, si il y a un problème entre toi puis ta femme, puis que tu penses que c'est en la battant que le problème va se régler, en réalité, c'est pas du tout ça la réalité, c'est le contraire qui est vrai. C'est-à-dire que c'est souvent quand tu vas la battre, c'est là que ça va encore plus diviser entre toi et ta femme. Et ça va briser peut-être même votre relation complètement. Hein, parce que une fois que cette chose-là a été faite, eh bien c'est dur de réparer les pots cassés, hein, après ça. Donc, si tu es arrivé au point où il faut que tu bats ta femme pour qu'elle t'écoute, dans ce cas-là, c'est plus une épouse que tu as, mais c'est plutôt, c'est comme une esclave que tu as. Dans ce cas-là, c'est pas normal. Et un bon mari, il va pas agir comme ça avec sa femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers sa femme. Donc un musulman qui est correct dans sa religion et qui craint Allah et qui a un bon comportement avec sa femme, eh bien il n'aura pas besoin de la battre. Et il n'a pas le droit non plus de la battre. Mais, comme on dit, il a le droit de la frapper dans certains cas, comme c'est mentionné dans le verset, mais comme dernier recours. Et si ça ne marche pas, eh bien, c'est mentionné dans le verset suivant, le verset 35. Si vous regardez dans le verset 35 dans Sourate An-Nisa, ça mentionne le fait de ramener des arbitres pour essayer de régler le problème. Deux personnes, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. C'est-à-dire, si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle, et les deux, si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Donc ça, c'est l'étape suivante. Et puis là, par la suite, si ça ne va vraiment pas malgré tout ça, eh bien là, c'est souvent ça, c'est des situations comme ça qui amènent au divorce, malheureusement. Donc il faut faire attention à ces choses-là, mais le cheikh il explique, il dit: فَالضَّرْبُ يُشْرَعُ لِلزَّوْجِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَيُشْرَعُ لِلسُّلْطَانِ مَعَ رَعِيَّتِهِ. Souvent quand on parle de ces sujets-là dans l'islam et qu'on mentionne que dans l'islam, oui, le mari a le droit de frapper sa femme, dans le Coran c'est écrit, il n'y a pas de doute, et il y a des versets, il y a des hadiths aussi qui mentionnent ces questions-là. Certains parmi les kuffars, lorsqu'ils entendent ça, ils disent, bon, ça c'est quelque chose qui est inacceptable, et les musulmans, ils n'ont pas le droit d'enseigner ça. Mais pourtant, ça c'est quelque chose qui est enseigné dans le livre de la parole d'Allah. La parole d'Allah, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un être humain, c'est la parole du Créateur des cieux et de la terre. Et il connaît mieux la nature de l'homme et de la femme, et il sait mieux que l'homme qu'est-ce qui est bénéfique et bon, et qui peut être une solution dans les problèmes de ce genre. Donc, qui est-ce qu'on va écouter? Est-ce qu'on va écouter des psychologues kuffars, ou bien on va écouter Allah, Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes? Donc ça, c'est un point important à comprendre. Et peu importe, yani, qu'est-ce que les non-musulmans vont penser de ça, c'est pas ça qui doit, yani, disons, déterminer comment on prêche ou comment on enseigne notre religion, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé la religion au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a transmis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis la religion comme il l'a reçue de la part d'Allah. Et les sahaba ont fait la même chose, ils ont transmis le Coran et les hadiths à la génération suivante des tabi'in tels qu'ils l'ont reçu. Et donc c'est de la même chose que nous, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Transmettre la religion d'Allah telle qu'elle nous a été transmise, telle qu'elle nous a été transmise, sans changer ou réadapter les principes pour faire plaisir à des kuffars de l'Orient ou de l'Occident, ou yani, à des individus qui sont contre la révélation d'Allah. Parce que sinon, ça veut dire qu'on devrait changer la religion pour satisfaire les gens, et non pas d'établir la religion d'Allah pour satisfaire le Créateur. Donc ça, c'est un point important. Et le cheikh, il explique ici, il dit فَالضَّرْبُ يُشْرَعُ لِلزَّوْجِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَيُشْرَعُ لِلسُّلْطَانِ مَعَ رَعِيَّتِهِ وَيُشْرَعُ لِلْمُعَلِّمِ مَعَ طُلَّابِهِ وَلِلْوَالِدِ مَعَ وَلَدِهِ قال صلى الله عليه وسلم واضربوه عليها ابن عشر واضربوه عليها ابن عشر فكل مرب له أن يضرب من تحته أو تحت يده ممن يربيه وإذا احتاج إلى الضرب ويكون هذا الضرب بضوابط شرعية وهو ضرب يؤلم المضروب ولكنه لا يؤثر في جسمه أثرا ضارا فالضرب من وسائل التربية الشرعية المعروفة. Donc le cheikh il dit, le fait de frapper, c'est quelque chose qui est légiféré pour l'homme avec sa femme, et c'est légiféré également pour le dirigeant avec son peuple, ou bien yani, ceux qui sont sous son autorité lorsque c'est nécessaire, hein, et pour punir lorsqu'ils ont désobéi à des lois, il y a des peines comme ça, et également pour le professeur lorsqu'il yani, gère ses élèves, si c'est nécessaire de les punir en les frappant, eh bien il a le droit de le faire également, et le père avec son enfant aussi, hein, si le père décide de punir son enfant et de le taper ou bien de le frapper, dans ce cas là c'est permis pour lui selon l'islam. Et le cheikh il mentionne le verset, plutôt le hadith qui est rapporté par Abu Daoud. C'est un hadith rapporté par Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, et rapporté également par Tirmidhi, selon Sabura. Il dit « Wadribuhu alayha ibn Ashrin » C'est-à-dire, frappez-les après qu'ils aient atteint l'âge de 10 ans par rapport à la salat, s'ils ne la font pas, de les frapper à partir de l'âge de 10 ans. Et ça, c'est une indication qui prouve que le fait de frapper, c'est, il y en a quelque chose qui est permis, et c'est pas interdit. Et le cheikh il dit فَكُلُّ مُرَبِّنْ لَهُ أَنْ يَضْرِبَ مَنْ تَحْتَ يَدِهِ مِمَّنْ يُرَبِّيهِ. Donc toute personne qui est éducateur, il a le droit de frapper celui qui est sous sa main, sous sa responsabilité, parmi ceux qu'il est en train d'éduquer, s'il a besoin de frapper. Et le coup qu'il donne, ou la frappe qu'il donne celui à qui il le donne, doit être fait selon les limites et les règles et les principes de la charia de l'islam, c'est-à-dire que c'est un coup qui fait mal à celui qui est tapé, mais qui ne laisse pas de traces ou de marques nuisibles, hein, parmi les, comme on a dit tout à l'heure. C'est pas le but, c'est pas de briser ou de casser ou de battre, mais plutôt pour punir. Et ça fait partie des moyens d'éducation qui sont connus dans la charia de l'islam. Et ça, c'est depuis des siècles, ça a été comme ça, et c'est toujours comme ça. Dans la charia de l'islam, c'est pas interdit. Et il parle ici maintenant, il mentionne un point qui est important, il dit « وَلَا عِبْرَةَ بِكَلَامِ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ الضَّرْبِ مِنَ الْمُسْتَغْرِبِينَ وَمَنْ لَفَّ لَفَّهُمْ كَأُولَئِكَ الْمُتَأَثِّرُونَ بِالْأَدَبِ الْغَرْبِ وَبِأَخْلَاقِ الْغَرْبِ فَنَقُولُ لَهُمْ هَذَا مِنَ التَّشَبُّهِ الْمَمْنُوعِ فِي شَرْعِنَا فَإِنَّ دِينَنَا لَهُ اسْتِقْلَالِيَتُهُ وَلَهُ أَحْكَامُهُ وَلَا يَخْضَعُ لِاسْتِيرَادِ الْعَادَاتِ وَالتَّقَالِيدِ مِنَ الْكُفَّارِ فَأُصُولُ التَّرْبِيَةِ تُؤْخَذُ مِنْ دِينِنَا لَا مِنَ الْغَرْبِ. Donc le cheikh, il mentionne un point important ici. Il dit qu'on ne doit pas prendre aucune considération ou donner aucune considération à la parole de ceux qui nient le bienfait de frapper lorsque c'est nécessaire parmi les gens qui ont été occidentalisés parmi les musulmans et ceux qui ont suivi leur tendance et leur voie. Ils disent, ces gens-là sont influencés par les manières occidentales, les manières de l'Europe et de l'Amérique. Et ils sont influencés par les comportements de l'Occident. Et il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est que les koufars maintenant, s'ils ont mis de l'avant certaines théories psychologiques ou bien plutôt éducatives qui prônent le fait de ne pas frapper, c'est quelque chose qui est récent, historiquement. Parce que si tu recules peut-être 100 ans en arrière, c'était quelque chose qui était accepté socialement et qu'il n'y avait aucun problème pour eux de faire ce genre de choses. Hein? Et dans les écoles, ils le faisaient. Ça, c'est connu. Ici au Québec, par exemple, c'était les prêtres et les religieuses. C'était eux qui donnaient les enseignements dans les écoles. Et lorsque des enfants faisaient des bêtises ou étaient désobéissants ou impolis, ou qu'ils faisaient des mauvais coups, ou qu'ils disaient des gros mots, ou des choses comme ça, et que le professeur ou la maîtresse décidait qu'elle allait mériter une punition pour ça, soit elle donnait la punition elle-même, ou elle envoyait l'enfant chez le directeur, et le directeur, eh bien, il établissait la punition sur l'enfant lorsqu'il le méritait. Et ça, c'était quelque chose de normal. Même que les parents étaient d'accord avec ça. Hein? Aujourd'hui, maintenant, il y a des principes qui disent que, on n'a pas le droit de toucher à un enfant, même s'il est désobéissant, ou même s'il fait toutes sortes de bêtises. Ouais. Maintenant, je vais vous dire le pire encore. Maintenant, c'est que les élèves viennent à l'école avec des armes et ils tuent leurs professeurs et les élèves. Plein d'endroits aux États-Unis, c'est comme ça. Combien de tueries se sont produites dans différentes écoles aux États-Unis? Des gens qui rentrent à l'école avec des armes et qui commencent à tuer tout le monde sur leur passage. Et même ici à Montréal, c'est arrivé. Donc c'est pour dire que auparavant, il y avait le respect entre les élèves. Ils respectaient leurs professeurs, ils craignaient leurs professeurs aussi même. Parce qu'ils savaient qu'en même temps, non seulement s'ils n'étaient pas obéissants ou s'ils n'étaient pas polis, ils risquaient de se faire punir, mais en même temps aussi, il y avait plus de respect, juste le fait de savoir que le professeur avait le droit de faire ça. C'est psychologique. Maintenant, les enfants savent que le professeur n'a pas le droit de les frapper. Alors, les élèves, ça, on dirait que ça les encourage encore plus à être impolis, à désobéir et à transgresser, à faire les pires bêtises. Même des fois, aujourd'hui, les enfants, ils vont même insulter leur professeur dans la classe et leur dire des grosses insultes. Et beaucoup de comportements totalement inacceptables. Et maintenant, c'est rendu que beaucoup de professeurs même ont dit que parmi ceux qui ont gradué avec un diplôme pour devenir professeur, la plupart d'entre ceux qui graduent, après quelques temps, ils abandonnent l'enseignement. Ils peuvent plus continuer parce que c'est devenu trop de pression, trop difficile. Et le plus difficile, parfois, c'est pas le fait de transmettre du savoir et de donner du savoir aux élèves, mais c'est plutôt de faire la gestion de classe. Parce que les élèves sont devenus totalement impossibles à gérer des fois. Et il y a toutes sortes de raisons pour ça, mais c'est juste pour dire que actuellement, le respect de l'élève pour son professeur en Occident, c'est quelque chose qui n'existe plus. Et comme je disais, ça c'est des théories. Et les koufars, c'est comme ça qu'ils font maintenant. On dirait la façon comment ils agissent avec les gens, c'est comme des rats de laboratoire. Ils appliquent sur eux des théories pour voir le résultat. Puis quand ils réalisent après 10 ans ou 20 ans que cette théorie-là, elle n'a pas eu les fruits nécessaires ou les fruits voulus, ou que ça n'a pas eu ça n'a pas produit qu'est-ce qu'ils ont espéré, il y a un autre psychologue ou un psychiatre ou quelqu'un d'autre qui arrive avec une autre théorie et qui dit non, maintenant, avant c'était, on disait ça, mais maintenant on ne dit plus ça, maintenant il faut faire ça. Et donc ils vont revenir sur leur position puis amener une autre explication maintenant. Donc il y a toutes sortes de théories. Il y en a qui disent non, il ne faut pas récompenser un élève s'il fait du bien, il ne faut pas le punir s'il fait quelque chose de mal. Il y en a qui disent qu'il faut faire de... En tout cas, il y a toutes sortes de choses qu'il raconte. Mais de toute façon, qu'est-ce que le musulman, comme le cheikh, il dit on ne doit pas se baser sur qu'est-ce que les occidentaux, de façon générale, expliquent. Même s'ils prétendent se baser sur des études scientifiques. S'ils disent que cette théorie est basée sur des études et des observations et des recherches, comment ça se fait que 10 ans après, ils reviennent avec une nouvelle recherche qui vient remettre en question qu'est-ce que la recherche précédente avait établi? C'est la preuve que c'est des choses qui sont relatives, des choses qui changent avec le temps, soi-disant. Tandis que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ça vient du Créateur, et le Créateur, c'est lui qui a créé sa créature, donc il sait qu'est-ce que la créature a besoin, ce dont la créature a besoin. Et il dit, فَنَقُولُ لَهُمْ. Donc on dit à ceux qui ont été influencés par ces idéologies des occidentaux, de l'Occident, et c'est-à-dire de l'Europe et de l'Amérique et autres, il dit que ça fait partie de la ressemblance ou de l'imitation des koufars qui est interdite dans notre religion. Parce que, il dit le cheikh, notre religion, elle a son indépendance. Notre religion, elle a son indépendance et elle a ses règles. C'est-à-dire que, on n'a pas à, pour établir les règles de l'islam et les principes de l'islam, on n'a pas besoin d'aller vérifier ailleurs que dans l'islam ou que dans la charia pour déterminer si c'est bien ou non. La charia de l'islam, elle est indépendante de ce que les théories des koufars peuvent établir ou ramener. Et ce qui vient d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui vient du Coran, c'est authentique. Et qu'est-ce qui vient de la sunna qui est établie, qui est authentique, ça aussi, ça vient d'Allah, parce que c'est une révélation comme le Coran, la sunna, c'est une révélation comme le Coran. Et si c'est des versets qui sont explicites et clairs, et authentique, yani pour nous c'est comme yani un fait établi qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on n'a pas le droit de le remettre en question puisque ça vient d'Allah. Et le cheikh il dit, on n'a pas à se soumettre à des traditions ou à des coutumes qui viennent des kuffars, parce que les fondements de l'éducation dans l'islam, on les prend dans notre religion et non pas de l'Occident. Non pas de l'Occident. Et même si on est d'origine occidentale, c'est-à-dire même si quelqu'un il vient de l'Europe et qu'il est, comme on dit par exemple, de souche, hein, et qu'il s'est converti à l'islam, il ne doit pas prendre comme référence sa culture ou ses traditions ou bien les théories que les kuffars dans son pays prônent, mais il doit plutôt se référer à la législation divine. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé pour déterminer comment agir et comment vivre dans la société. Et bien entendu, si on est dans un pays qui n'est pas musulman et on est contraint parfois de ne pas respecter, par exemple, certains principes de l'islam, c'est pour cette raison que les musulmans sont commandés de faire la hijra, c'est-à-dire de quitter les pays non musulmans pour aller vivre dans les pays musulmans, pour pouvoir vivre leur religion de façon libre et ouverte. Hein? Sinon, c'est bien sûr qu'ils vont être soumis à des règles et à des lois qui les poussent parfois à être en contradiction avec les enseignements de l'islam. Hein? Par exemple, toi tu es musulman, et dans ta croyance islamique, parce que tu crois au texte du Coran et de la Sunna, tu sais que l'homme, dans l'islam, c'est le chef de la famille. Hein? Et la femme, elle est une croyante, mu'mina, et elle croit au Coran et à la Sunna, et elle dit, oui, moi je crois que c'est mon mari qui est le chef de la famille, parce que je suis musulmane, parce que je crois en la charia d'Allah. Donc elle ne va pas dire, quand elle arrive au Canada ou en Europe, elle ne va pas dire, bon, puisque je suis maintenant en Europe ou en Amérique et que dans les lois de ces pays-là, c'est écrit que l'homme et la femme sont égaux, à part égale dans tout, et qu'il n'y a pas de chef de la famille, l'homme et la femme sont les chefs en même temps, que maintenant je vais vivre selon ces principes-là parce que je suis au Canada. Non. C'est pas quelque chose qui change par lieu ou par endroit. Le musulman, il va se soumettre à la religion d'Allah, peu importe où il vit dans le monde. Et même s'il est au Canada, par exemple, ici, tu es au Canada, il y a les lois du Canada, il y a les lois de l'Europe, mais toi, tu es un musulman, donc tu dis, moi, dans ma maison, c'est moi le maître, chez moi, et l'enseignement que je vais suivre pour vivre ma vie de tous les jours, ça, j'ai la liberté là-dedans. Personne ne peut m'imposer autre chose. Hein? Si par exemple j'enseigne à ma femme, à mes enfants, que dans l'islam c'est le chef qui est l'homme, c'est le chef de la famille, c'est ce principe-là qui va être établi chez moi. Les koufars ont pas le droit de vont pas venir rentrer chez moi pour me dire non, tu dois pas dire à ta femme que c'est toi le chef, ou bien tu dois pas leur dire que Allah a dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Mais tu dois leur enseigner qu'est-ce que c'est écrit dans notre charte ou dans nos lois. Non, chaque personne est libre de vivre comme ça, comme il veut. Et la vérité, c'est que même les chrétiens qui sont pratiquants, hein, et qui suivent les enseignements qui sont dans leurs livres falsifiés aujourd'hui, ils vivent de cette façon aussi. Et ils savent que, hein, c'est écrit dans leurs livres que l'homme est le chef de la famille. C'est écrit dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, chez les Juifs et chez les chrétiens. Va voir les Juifs orthodoxes qui pratiquent leur religion, tu vas voir c'est comme ça chez eux. Hein? Va leur demander, est-ce que vous croyez dans votre religion que l'homme est le chef de la famille? Ils vont dire oui. Va demander à des chrétiens pratiquants, est-ce que vous croyez que c'est l'homme qui est chef de la famille? Ils vont dire oui. Pourquoi? Parce que c'est ça leur croyance religieuse, eux ils croient en ça, et c'est des choses que Allah a révélées, puisque c'est des choses qui ont été établies par les prophètes d'Allah. Hein? Et c'est des choses que ceux qui s'y accrochent, hein, ils s'accrochent à des choses qui sont restées intactes parmi les enseignements des prophètes précédents. Et c'est des choses qui sont vraies. Mais ceux qui ont rejeté les enseignements des prophètes, même ce qui est vrai et ce qui a été préservé, ils ne veulent plus l'appliquer, ils ne se réfèrent même plus du tout à aucune religion. Eh bien, c'est ces gens-là justement qui causent le problème. Et c'est ces gens-là qui inventent des lois à chaque jour et qui imposent aux autres êtres humains de leur obéir dans ces lois-là. Allahu al-musta'an. Et ils placent ces lois-là au-dessus des lois que Allah a révélées. Donc ça, c'est ça l'égarement et le kufr. Le cheikh, il dit ensuite, قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي على الأزواج رزقهن يعني النفقة وكسوتهن بالمعروف لم يقدر النفقة صلى الله عليه وسلم ولم يقدر الكسوة لأن هذا يخضع إلى عرف الناس في كل زمان ومكان بحسبه وبحسب الغنى والفقر والتوسط والتوسط يعني الغنى والفقر والتوسط وهذا من حكمة الشارع أنه في هذه الأمور لا يضع لها حدا فاصلا لأنها تخضع لاختلاف الزمان والمكان والأحوال يعني فأوكلها إلى العرف أي إلى أن يتعرف عليه الناس في كل زمان ومكان. Donc le cheikh il dit, et parmi les droits que la femme a sur son mari, c'est que il doit يعني lui donner sa subsistance, il doit la nourrir, il doit la vêtir, il doit la يعني lui donner également l'habitation. Là où il un endroit pour vivre. Et il dit que donc ça c'est obligation, une obligation pour les maris, pour les hommes. C'est-à-dire que l'homme il a la responsabilité de an-nafaqa. An-nafaqa, c'est-à-dire de dépenser pour la nourriture, pour le logement et pour les biens qui sont nécessaires de la vie. Également pour les vêtements, il doit les vêtir. Et le cheikh dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas déterminé qu'est-ce qu'on doit dépenser. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné un montant spécifique de qu'est-ce qu'on doit dépenser pour notre femme ou pour yani, notre famille comme argent. Et la raison pourquoi le cheikh il explique, c'est que il a juste dit bil ma'ruf, c'est-à-dire selon la bienséance, c'est-à-dire selon qu'est-ce qui est bien connu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça dépend de chaque endroit et de chaque époque et de chaque situation. Par exemple, à une certaine époque, les gens vivent de telle façon, ou à tel endroit, les gens vivent de telle façon, alors c'est selon qu'est-ce qui est connu dans cette société-là, qu'est-ce que l'homme dépense pour sa femme de façon générale, qu'est-ce qu'il achète comme vêtements pour sa femme de façon générale, selon son niveau et son statut économique, il doit dépenser pour sa femme. Par exemple, quelqu'un qui habite, par exemple, au Mali, ou bien au Bangladesh, il va dépenser pour sa femme, il ne va peut-être pas dépenser la même chose que quelqu'un qui habite à Dubaï, ou qui habite par exemple en Arabie Saoudite, puisque le niveau de vie et la richesse de ces deux pays là sont différentes. Donc dans un pays, dépenser telle somme d'argent pour la femme, c'est qu'est-ce qui est reconnu, qu'est-ce qui est connu, qu'est-ce qui est bien, tandis que dans un autre pays c'est soit plus ou soit moins, ça dépend de qu'est-ce que les gens ont comme moyen. Ça, c'est un exemple. Aussi, dans l'époque, qu'est-ce que les gens portaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vêtements, et qu'est-ce que les gens portent aujourd'hui, c'est pas les mêmes, nécessairement. Et donc, il y a une différence dans le prix aussi, et dans la valeur. Et aussi, selon la famille. Si, par exemple, toi, tu es dans une famille riche, tes parents, ils ont des... Par exemple, dans leur compte de banque, tes parents, ils ont des économies comme 500 000 dollars. Hein? Donc, ils sont aisés. Ils ont une maison, ils ont une voiture, ils vivent bien. Et, yani, par exemple, ta sœur, hein, ta sœur, elle est habituée de porter certains vêtements, de manger certaines nourritures, de vivre d'une certaine façon, d'avoir un certain confort. Si l'homme qui vient la marier, en principe, il va se marier avec elle, en principe, il doit lui donner ou lui offrir le statut et le niveau de vie auquel elle était habituée lorsqu'elle vivait chez elle. Naam. C'est pas obligé, mais dans le sens que, en général, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ça que la fille, elle, c'est ça, à ça qu'elle est habituée. Bien entendu, des fois, par exemple, il y en a qui sont des familles qui sont pieuses, qui sont religieuses, et qui vont dire, pour nous, on a de l'argent, on est bien, on est aisé, mais en même temps, on est modeste. Et on ne va pas, par exemple, refuser quelqu'un parce qu'il n'a pas les moyens ou qu'il est pauvre. On va l'aider, puis il va se marier avec notre fille, puis on va l'aider, comme ça il peut pourvoir à sa fille comme il faut, à sa femme comme il faut plutôt. Mais c'est pour dire que chacun selon le niveau de qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il possède. Si par exemple toi tu es riche, tu as une femme, et tu dis moi je vais te donner seulement des vêtements que portent les pauvres. Puis je vais seulement te donner la nourriture que mangent les pauvres. Hein? Ouais, tu vas seulement porter des vêtements pauvres et des choses pauvres et de la nourriture qui coûte pas cher. Je veux pas dépenser sur toi. Ça, c'est pas correct. Hein? Il y a un verset, c'est dans Surat al-Talaq, je pense, ou Talaq ou bien Al-Hadid. Pas Al-Hadid, Talaq ou Al-Tahrim, un des deux. Je ne me rappelle plus et je me mélange souvent entre ces deux versets-là. Ça dit لينفق ذو ساعة من ساعته لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie لينفق ذو ساعة من ساعته, celui qui a de l'aisance, qui a de l'argent, qu'il dépense de son aisance pour sa femme. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ, celui dont la subsistance a été restreinte, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهِ, qu'il dépense de ce que Allah lui a donné. Il n'a pas beaucoup, il donne pas beaucoup. Hein? لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا. Allah, il ne va pas mettre sur quelqu'un une charge plus que qu'est-ce qu'il lui a donné. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Allah va mettre, après la difficulté, de la facilité. Donc c'est pour dire, chacun, il va dépenser selon ce qu'il a, et selon ce qu'il possède. D'accord? Et donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas une dépense ou un montant prédéterminé qui a été mentionné dans la charia pour dire l'homme doit dépenser, par exemple, 1 000 $ par à chaque 6 mois il doit dépenser en minimum on va dire 10 000 $ pour sa femme, pas plus que ça, ou pas, il n'a pas à donner plus ou à donner moins, c'est ça qui est obligatoire. Il n'y a pas un montant comme ça qui a été déterminé. Pourquoi? Parce que les gens vivent pas tous de la même façon et ils n'ont pas tous les mêmes habitudes et les mêmes cultures et le même niveau de vie. Donc c'est déterminé selon la société, selon l'époque et selon le lieu. Et donc, selon la richesse de la personne, ou selon sa pauvreté, ou selon qu'il est dans la classe moyenne, il va vivre de cette façon-là. Et il dit, donc ça fait partie des choses que la charia a pas déterminées. Hein? Et ça rapporte donc avec al-urf, comme on dit. Et après, le cheikh, il dit, c'est-à-dire selon qu'est-ce que les gens connaissent, selon l'époque et le lieu. Il dit, فَالْمَرْأَةُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا حَبْقُ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَحْبُوسَةٌ عِنْدَهُ. Dans l'islam, c'est l'homme qui a l'obligation de dépenser pour sa femme et pour lui payer la nourriture, les vêtements et le logement et les soins. La femme n'a pas à dépenser un sou de sa poche pour ces choses-là. Ce n'est pas son devoir à elle. Ce n'est pas son obligation à elle. C'est-à-dire que dans l'islam, c'est l'homme qui a l'obligation et le devoir de pourvoir à sa femme le logement, les vêtements, la nourriture et les soins. Des soins comme par exemple si elle a besoin des choses médicales, ou des soins médicaux, ou des soins, choses comme ça. C'est lui qui doit dépenser pour elle dans ces choses-là. Elle n'a pas l'obligation de dépenser un sou, ou bien un centime de ce qui a rapport avec ces choses-là. C'est pas obligatoire pour elle de dépenser quoi que ce soit là-dedans, même si elle est riche et que son mari est pauvre. Si elle a 1 million à la banque et toi, tu travailles au salaire minimum, c'est à toi l'obligation de payer le loyer, c'est à toi l'obligation d'acheter les vêtements, c'est à toi l'obligation d'acheter la nourriture, c'est à toi la responsabilité de tout dépenser. Elle n'a pas besoin, elle n'est pas obligée de t'aider dans rien de cela. Donc c'est pas comme les gens aujourd'hui qui disent « Ouais, mais écoute, il faut que tu dépenses avec moi, on fait moitié-moitié, moi je paye ça, toi tu payes ça. » Non, dans l'islam, c'est pas comme ça. Dans l'islam, c'est l'homme, c'est lui qui doit dépenser pour ces choses-là seulement. Est-ce que ça veut dire que la femme, elle n'a pas le droit d'aider son mari ou de lui donner si elle peut ou si elle a la capacité? Est-ce que ça veut dire ça? Non. Elle a le droit de l'aider si elle est capable, si elle veut. Ça va être une sadaqa. C'est comme si elle donnait une sadaqa à son mari. Mais elle n'est pas obligée de le faire. Et donc ça, c'est très important de comprendre ça. Ça, c'est quelque chose, les koufars, eux, ne comprennent pas du tout. Quand on leur parle des questions de différence entre l'homme et la femme dans l'islam, ça, c'est un élément qu'eux, ils ne comprennent pas du tout. Parce qu'eux, ils pensent que non, l'homme et la femme, c'est la même chose. Chacun doit dépenser, chacun doit mettre de son argent et ainsi de suite. Pas dans l'islam. Parce que dans l'islam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère ces questions-là, qui détermine les principes. Naam, donc, c'est pour cette raison-là que quand tu vois des femmes aujourd'hui, beaucoup de filles musulmanes, elles vont à l'école, elles vont à l'université, elles disent « Bon, moi je vais avoir une carrière, je vais avoir ma maison, ma voiture ». Je veux avoir mes affaires, je veux pas dépendre sur un homme. Tu entends des filles musulmanes, même qui portent le voile, qui disent des choses comme ça. Alors que, yani, c'est pas leur devoir de faire ça. Après, ça veut dire quoi quand ils vont se marier? C'est son mari qui va venir habiter chez elle? Ou bien c'est elle qui va aller habiter chez son mari? Ça crée beaucoup de problèmes par la suite, parce que elle, quand elle a toutes ses affaires, puis elle a c'est sa maison, c'est sa voiture, c'est ses affaires. Après, quand ça va pas avec son mari, elle lui dit bon, écoute, c'est moi qui a payé pour tout ici, va-t'en. Ça veut dire que elle se croit supérieure à son mari par la suite, et elle voit pas non plus à son mari aucun mérite sur elle, puisque c'est lui qui dépense, lui il dépense rien, puis c'est elle qui a tout. De sa propre poche. Donc ça, c'est pas la façon dont la femme doit penser. C'est pas la façon dont la femme doit penser, mais plutôt elle devrait se concentrer sur justement sa vie familiale et le fait de vouloir bâtir un foyer avec son mari, et que c'est son mari qui a la responsabilité de s'occuper de ces choses-là. Mais une des choses qui fait souvent que les hommes, parfois, ils ne trouvent pas de travail, ou ils n'ont pas des bons salaires, c'est surtout parce qu'il y a justement les compagnies qui ont trouvé un moyen d'obtenir une main-d'œuvre pas chère en faisant travailler les femmes, ce qui fait que, à cause de ça, il ne reste plus d'emploi pour les hommes. Et ça, c'est des choses que les féministes détestent entendre quand on dit ça. Ça les met en rage, mais bon. Il faut le dire parce que c'est la vérité, que ça leur plaise ou non. Et le cheikh, il dit ensuite, فَالْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَقُّ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى. Donc c'est ça qu'on a expliqué maintenant. لأن المرأة محبوسة عنده لا تذهب للتكسب ولطلب الرزق. Pourquoi? Parce que la femme elle est chez lui, elle est retenue chez lui, chez son mari, elle ne peut pas partir aller travailler ou aller chercher la subsistance. فهو الذي ينفق عليها ويضمن لها ما يكفيها لتكفيه هي مؤونة عمل البيت وتربية الأولاد. Donc le cheikh dit c'est lui qui doit dépenser sur elle et pour elle et lui garantir ce qui lui est suffisant et ce qu'elle a de ce dont elle a besoin, et elle de son côté elle s'occupe du travail ménager et de l'éducation des enfants. Ah là, les koufars, ils entendent ça, là. Les féministes, là, ils sont enragés maintenant. Là, ils disent, ah, ça, c'est du sexisme. Hein? Vous attribuez à la femme un rôle et vous attribuez à l'homme un rôle. Ça, c'est pas juste. La femme, pour eux, elle n'a pas un rôle spécifique et l'homme, il n'a pas un rôle spécifique. L'homme peut avoir le rôle de la femme et la femme peut avoir le rôle de l'homme. Ça, c'est chez les koufars. Chez les gens qui croient en la théorie de Darwin, que l'homme descend du singe et que tout est par hasard, hein? Ça veut dire le singe s'est développé, il y a eu un mâle et une femelle, mais par la suite la société a déterminé des rôles pour le mâle et des rôles pour la femelle, mais c'est pas Dieu qui a décidé ça, c'est la société. Puis là aujourd'hui eux ils disent bon, puisque c'est la société qui a déterminé que les hommes ont un rôle, que les femmes ont un rôle, et que ça c'était pas juste selon eux, donc maintenant il faut enlever tout ça et effacer tout ça et refaire la société d'une autre façon dans laquelle on dit que l'homme et la femme ils n'ont pas un rôle spécifique, chacun peut faire ce qu'il veut. Et c'est pour ça que tu les vois en train d'encourager les femmes à devenir pompiers, policières, je ne sais pas quoi d'autre encore. Et donc en fait qu'est-ce qui se passe, c'est ça, c'est que elles ont dévalorisé le rôle de la femme. Elles ont fait paraître la femme et son rôle de mère et d'éducatrice des enfants comme si c'était quelque chose de méprisable, quelque chose de minable, quelque chose qui était comme dévalorisant pour elles. Comme si c'était quelque chose de mauvais et que le bon rôle, le beau rôle, c'était d'être un homme, de sortir et de travailler. Subhanallah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, elle veut devenir un homme maintenant, pour soi-disant de se faire valoriser, alors qu'elle n'a pas besoin de ça pour se faire valoriser, puisque déjà en faisant son rôle, il y a dans ce rôle-là tout ce qui la valorise. Qu'est-ce qui est plus valorisant pour une femme que de mettre au monde un enfant qu'elle va éduquer elle-même, qui va être le futur, hein, et la génération future, et qui va être, hein, ceux qui vont justement peupler cette terre. Et aussi, il y en a qui disent, non, mais en même temps, la femme, elle n'a pas de rôle dans la société parce qu'elle ne peut pas rentrer dans la politique ou des choses de ce genre. Eh bien, subhanallah, même à l'époque où il n'y avait pas de femmes en quoi que ce soit de la politique, comme par exemple aujourd'hui, eh bien, tu voyais que, par exemple, le roi, il avait sa femme. Sa femme, c'était qui? C'était la reine. Eh bien, malgré qu'elle n'était pas au pouvoir, puis qu'elle n'avait aucun pouvoir, mais quand elle était seule à son mari, elle pouvait lui donner ses points de vue, ses opinions, elle pouvait parfois même décider de beaucoup de choses, hein, dans la société par l'intermédiaire justement de son mari sans avoir le pouvoir. Et souvent des fois c'est des choses que tout le monde sait, que c'est pas nécessairement celui qui est en avant du monde et qui est au pouvoir réellement qui a le plus d'influence. Des fois c'est celui qui est en arrière, le conseiller, hein, ou bien les gens qui sont les ministres et les gens qui sont proches, ils peuvent avoir parfois plus d'influence sur la réalité politique d'un pays que celui qui est directement au pouvoir, et y compris la femme, hein? Mais bon, ces gens-là, ils ne sont pas satisfaits de ça. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qu'ils font, surtout avec la démocratie. Et donc le cheikh, il dit لا تذهب للتكسب ولطلب الرزق. Bon, est-ce que la femme a le droit de travailler dans l'islam? Oui, elle a le droit de travailler, selon des conditions. Mais, à la base, le rôle de la femme, ce n'est pas de sortir pour travailler, c'est de rester à la maison et de s'occuper de sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى » c'est-à-dire ne sortez, restez dans vos demeures et ne vous exhibez pas à la manière de la jahiliya. Donc ça c'est quelque chose qui est établi. La femme, sa place principale c'est la maison, c'est d'aider son mari, de servir son mari, de s'occuper de ses enfants et de rester à la maison. C'est le rôle, oui, traditionnel de la femme, et il y a dans ça, comme le cheikh dit, وَهَذَا هُوَ مِنْ أَشْرَفِ الْأَعْمَالِ وَأَجَلِّهَا. Ça, c'est un des plus nobles travails, hein, et les plus valeureux. وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْقَائِلِينَ إِنَّكُمْ قَدْ عَبْطَلْتُمْ نِسْفَ الْمُجْتَمَعِ لما أجلستم المرأة في بيتها لأن هؤلاء إنما يريدون أن تخرج المرأة وتختلط بالرجال ليحققوا مآربهم. Donc le cheikh il dit, on ne doit pas tenir compte de ceux qui disent vous avez complètement annulé ou bien complètement empêché la moitié de la société de faire de participer, hein. Vous avez complètement empêché la moitié de la société d'être actif dans le développement et dans la politique et dans l'économie. Parce que vous avez laissé la femme rester à la maison. Alhamdulillah, quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné un rôle à l'homme et un rôle à la femme, ça veut dire que les deux, l'homme et la femme, sont complémentaires. Qu'est-ce que l'homme fait, hein? La femme, elle n'a pas à le faire. Mais elle fait d'autres choses. Et qu'est-ce qu'elle fait? L'homme, lui, il n'a pas à le faire. Donc, ils s'entraident en même temps. Ils collaborent les uns avec les autres. Hein? Mais, comme le cheikh va le dire, vous allez voir. Il dit, pourquoi ces gens-là disent ça? Parce qu'ils veulent que la femme sorte de la maison et se mélange avec les hommes pour qu'ils puissent arriver à obtenir leurs objectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent de la femme? Pouvoir avoir des rapports illicites avec elle. Et la meilleure manière d'avoir des rapports illicites avec la femme, si elle reste chez elle avec son mari et ses enfants, c'est pas comme ça qu'ils vont être capables de rencontrer des femmes. Si les femmes restent chez elles avec leur mari et leur famille, comment ils vont faire pour trouver des femmes? Donc ils veulent que la femme sorte pour se mélanger avec les hommes, comme ça ils peuvent satisfaire leurs désirs avec les femmes de façon illicite, hein, et de façon adultère. Donc, le cheikh dit, وَهَؤُلَا يَنْزَعُونَ بِنَا إِلَى الْجِهَةِ الْغَرْبِيَّةِ وَإِلَى النِّظَامِ الْغَرْبِيَ الْكَافِرِ. Donc, il dit, ces gens-là, ils sont en train de nous tirer vers la voie de l'Occident. Et ils veulent qu'on vive selon les Occidentaux mécréants. لِيُفْسِدُوا نِسَاءَنَا وَيُفْسِدُوا مُجْتَمَعَنَا. Pour corrompre nos femmes et pour corrompre nos sociétés. Pourquoi? Parce que notre société, elle a un ordre. Elle est établie selon des principes et des règles. Et c'est les règles de l'islam. Eux, ils veulent venir dans les pays musulmans maintenant, puis essayer de dire à la femme, non, vous n'avez pas besoin d'obéir à Allah, obéir à l'islam, obéir au Coran, obéir à la sunna, obéir à vos maris, obéir à vos pères. Non, tout ça c'est, hein, vous le rejetez. Et vivez selon notre façon de vivre, la façon occidentale, où l'homme et la femme est égal et la femme peut faire ce qu'elle veut, sortir quand elle veut, aller où elle veut, avec qui elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Pourquoi? Hein? Parce qu'ils croient en rien. Mais ils veulent que la femme devienne comme ça aussi. Donc c'est ça la corruption et le désordre de dans la société. C'est exactement ça. Et c'est ça ce qu'ils veulent et ils savent. Donc le cheikh il dit, fal mar'atu laha amalun jalilun tu'addihi ma'a as-siyanati wal 'afafi was-sitri. فتجمع بين المصلحتين أداء العمل في البيت وحفظ نفسها عن التبذل وعن التلطع الفساق إليها مع مراعاة ضعفها فليست المرأة معطلة بل تقوم بعمل لا يقوم به غيرها ولهذا لما خرجت المرأة لطلب العمل الخارجي الوظيفي حدث الخلل في الأسرة والمجتمع فصار الأولاد الذين هم في غاية الحاجة للأم المربية فاضطر أصحاب البيوت أن يستقدموا مربين ومربيات والخدم وقد يكونوا غير مسلمين ولهم أفكار وثقافات منافية لديننا وعقيدتنا فيربون الأطفال على هواهم وميولهم ورغباتهم، ويلقنونهم الأفكار الخبيثة والضارة. ثم من هذه المربية التي ستحل محل الأم، يعني من هذه المربية التي ستحل محل الأم في العطف والحنان على الأولاد؟ وبالتالي فإن الأولاد سيعانون من اضطرابات ومشاكل لا حصر لها. فقد تكون كافرة تربيهم على أخلاق الكفار وعاداتهم، وقد تكون المربية عندها شعوذة وسحر، وهذا يكثر يعني في المربيات. Donc le cheikh il donne des exemples ici qui sont réels, des choses personne ne peut nier. Même si certaines de ces choses-là sont plus vraies dans certains pays que dans d'autres, mais il y a des ressemblances quand même ailleurs. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la femme, donc, elle reste dans la maison et elle remplit son rôle. Et en même temps qu'elle remplit ce rôle-là, de s'occuper de son mari et de ses enfants et de la maison, eh bien, elle, en même temps, elle se préserve et elle reste couverte. Hein? Et donc, elle réunit entre deux bienfaits. Le premier bienfait, c'est de travailler à la maison et de se préserver elle-même, hein, et de ne pas être à la merci des pervers qui peuvent essayer de profiter d'elle dehors, tout en tenant compte de son état, du fait qu'elle est faible, puisque c'est une femme, et ça veut dire donc qu'elle n'est pas inutile à la société. Au contraire, yani, elle fait un travail que personne d'autre qu'elle est capable de faire. Ou personne d'autre qu'elle peut faire mieux qu'elle. Hein? Et lorsqu'elle sort pour chercher de l'argent, pour travailler dehors, hein, tu vois, par exemple, comme je disais la dernière fois, yani, la femme, tu la vois, par exemple, quand son mari est à la maison, il lui demande, tu peux m'amener ça, s'il te plaît, ou tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît. Et elle est toujours, par exemple, si elle est, c'est-à-dire elle n'a pas envie de le faire, donc elle dit va le chercher toi-même, pourquoi tu me demandes, ou bien elle lui amène mais elle dit pourquoi tu vas pas le chercher, ou des choses de ce genre. Alors que si elle va aller travailler dans un restaurant ou bien dans un endroit public et son patron lui dit amène-moi ça, amène-moi un café, amène-moi ça, dans un restaurant il commande de la nourriture, amène-moi telle chose, je veux manger ça, elle vient avec le sourire, hein, elle est gentille, elle dit oui, vous voulez quoi, qu'est-ce que je peux vous amener, et elle va et elle vient, pour des étrangers, hein, mais pour son mari à la maison, parce que hein, il lui demande quelque chose, non, là c'est le visage renfrogné et toujours les réprimandes et le blâme, parce que pourquoi, il lui donne pas un salaire? Est-ce que c'était juste pour de l'argent? Il faut que je la paie pour qu'elle me sourie? Ou bien elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, la femme croyante, quand elle obéit à son mari et quand elle fait ce que son mari lui demande, elle le fait pour Allah. Et elle sourit à son mari et Allah la récompense pour ça. Hein? Tout ce qu'elle fait, si elle le fait pour Allah, Allah va la récompenser. Elle aura la récompense de ce qu'elle fait pour son mari au jour de la résurrection. Et la même chose, le mari pour sa femme, quand il fait quelque chose pour sa femme, il aura la récompense de ce qu'il a fait pour sa femme au jour de la résurrection, s'il l'a fait pour Allah. Donc, il n'y a pas de perdant dans cette relation-là qui est basée sur la foi. Mais si c'est une relation basée sur les intérêts ou sur la dunya, oui, c'est toujours comme ça, il y a des problèmes. La femme, elle sert des étrangers, elle est gentille, elle est contente, elle sourit. Alors qu'au fond d'elle-même, elle n'a même pas envie de sourire ou d'être... Des fois, c'est juste, hein, comme certaines... Certaines, parfois, des gens qui travaillent des femmes qui travaillent dans les restaurants, elles disent, c'est pour le pourboire. Parce que si elle sourit pas, elle va pas avoir de pourboire. Hein? Donc, c'est pour dire, comment les gens, pour de l'argent, ils feraient n'importe quoi. Si elle va dans un travail, dans un emploi, par exemple, regarde, chez McDo, tu vas travailler chez McDo, faut que tu portes l'uniforme de McDo. Hein? Et tu le fais pourquoi? Parce que ton patron il te demande et puis tu reçois un salaire. Mais quand Allah il te dit porte l'uniforme de la musulmane, c'est-à-dire tu portes le hijab et tu couvres ton corps et tu laisses pas paraître tes atours, ah non je veux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on te paye pas.
Allah, il va te payer en plus au jour de la résurrection, il va te récompenser en beaucoup plus si tu l'obéis dans ces choses-là. Et il est bien plus important qu'un patron parmi les créatures. Donc si tu obéis à une créature qui est ton patron dans des choses qui ne sont pas obligatoires, pourquoi tu ne vas pas obéir à ton créateur dans des choses qu'il t'a ordonné de faire qui sont beaucoup plus bénéfiques pour toi et bonnes et qui vont te ramener des récompenses et le paradis éternel. Donc réfléchis à ça. Et le cheikh il dit, qu'est-ce qui se passe maintenant quand la femme est partie travailler? Eh bien le résultat de ça c'est que maintenant la maison, il n'y a plus personne. Ça a causé un problème dans la société maintenant, dans la famille aussi, parce que les enfants sont restés seuls. Ils rentrent parfois à la maison, il y a pas, le père et la mère ne sont pas là. Donc ils restent tout seuls, ils ne sont pas éduqués par leurs parents. Et ils ont besoin de leur mère. Et tu vois une grande différence entre les enfants dont les mères étaient présentes à la maison pendant leur enfance et qu'ils ont grandi avec leur mère, et les enfants qui n'ont pas grandi avec leur mère, c'est-à-dire leur mère travaillait avec leur père en même temps, et donc ils n'ont pas eu l'éducation de la mère de cette façon. Donc tu vois la grande différence entre les deux. Et donc le cheikh il dit, les gens dans ces maisons, ils ont été obligés par la suite, ils ont été obligés de prendre des bonnes ou des gardiennes pour venir s'occuper des enfants. Ou bien des garderies, ici c'est les garderies. Les gens ils portent leurs enfants dans les garderies. Et les musulmanes, maintenant elles sont toutes en train d'ouvrir des garderies. Allah al-musta'an. Donc, le cheikh il dit, qu'est-ce qui arrive? Souvent, même dans les pays du Golfe, par exemple, en Arabie Saoudite, aux Émirats, ou ailleurs, dans ces coins-là, les gens ont beaucoup d'argent, donc ils font venir des servantes ou des gardiennes d'enfants qui s'occupent des enfants. Et souvent, ce n'est même pas des musulmanes. Elles viennent du Philippines, elles viennent de d'autres pays. Et donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Elles inculquent aux enfants des idées, des cultures qui sont en opposition avec la religion et la aqida de l'islam. Et donc, ils éduquent les enfants selon leurs passions, selon leurs désirs, selon leurs penchants. Et ils leur transmettent des idées nuisibles et mauvaises selon l'islam. Et donc, à partir de ce moment-là, cette éducatrice ou bien cette gardienne d'enfants, elle prend la place de la mère. Mais est-ce qu'une femme étrangère peut remplacer l'affection et la tendresse d'une mère pour les enfants? Non, c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ces enfants-là? Ils sont des enfants qui sont troublés par la suite. Des enfants qui ont beaucoup de problèmes. Et le cheikh dit, il n'y a pas de limite aux problèmes que ces enfants-là, les problèmes qu'ils développent par la suite. Des problèmes émotionnels, des problèmes comportementaux, et ainsi de suite. Et souvent, c'est des situations comme ça qui créent de la délinquance et d'autres genres de problèmes dans la société. Donc, il dit, c'est possible. Donc, ça aussi, c'est des choses, les féministes, les koufars, ils détestent quand on mentionne ces choses-là. C'est-à-dire, ils détestent qu'on attribue les conséquences des problèmes de la société, les conséquences de ce qu'ils ont créé comme société, à leur théorie ou à leurs idéologies ou à leur façon de vivre. Ils ne peuvent pas supporter ça. Ils ne tolèrent pas, par exemple, qu'on dise ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, en fait. Et la fierté. Ils ne veulent pas admettre leur tort. Mais c'est clair, les conséquences sont là et les faits sont clairs. Si tu compares comment les sociétés étaient auparavant et comment elles sont aujourd'hui, tu vois les grandes différences. Il n'y a pas de doute à ça. Et le cheikh il dit que les enfants donc ils vont être éduqués par ces femmes qui sont pas musulmanes et ils vont développer les comportements des koufars et leur tradition. Et si la gardienne vient d'un pays, puis que dans ces pays-là, par exemple, ils font du sihr, ou ils font toutes sortes de superstitions, elle va inculquer ses croyances et ses superstitions aux enfants. et peut-être même elle va utiliser le sihr pour faire des problèmes dans les maisons. Et ça, c'est quelque chose, il y en a beaucoup d'exemples de ces choses-là, il y en a beaucoup dans les pays musulmans. Le cheikh, il dit ensuite, فَمَاذَا سَيَكُونُ تَأْثِيرُ ذَلِكَ عَلَى الْأُسْرَةِ الْمُسْلِمَةِ يعني, qu'est-ce que ça va être, les conséquences donc, et les influences de ça sur la famille musulmane? C'est sûr que ça va être très, très négatif et mauvais. Il n'y a pas longtemps, quand j'étais, il y a peut-être 2-3 semaines, quand j'étais à Médine, il y a eu la visite de Cheikh Al-Fawzan. Il a donné une conférence à la dans la salle de conférence de l'université islamique de Médine. Et il a parlé dans une moitié de son discours, ou une partie de son discours, il a parlé beaucoup de ça, des problèmes sociaux, de la famille, hein, de la femme, des enfants, de l'éducation des enfants. Il a insisté beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un grave problème, c'est un fléau maintenant dans certains pays musulmans. Donc c'est pour cette raison-là que c'est important d'en parler et de clarifier ces choses-là, parce que tu vois les musulmans maintenant, la façon qu'ils vivent, la façon qu'ils ont orienté leur vie, c'est pas en se basant sur l'islam, malheureusement. C'est en suivant les exemples et les modes de vie des Européens et des Américains. Hein? C'est ça leur modèle maintenant, c'est pas la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est le mode de vie de ces gens-là. Donc il dit فَمَذَا سَتَكُونَ ماذا سيكون تأثير ذلك على الأسرة المسلمة أو قد تكون هذه المستقدمة غير شريفة في عرضها فتنشر الفساد في الأسرة ولا سيما مع شباب الأسرة فيحصل بذلك مفاسد لا حصر لها فالمقصود أن الأم إن خرجت من بيتها لتعمل فإما أن يذهب بالأولاد إلى دور الحضانة كأنهم لقطاء ليس لهم آباء ولو كانوا يعتنون بهم من الناحية البدنية من حيث الأكل والشرب ولكن المقصود بالدرجة الأولى التربية العقلية والدينية والروحية وأن لأولئك المربين أن يقوموا بمهمة الأم وعطفها وحنانها. Donc le cheikh il dit, donc peut-être que la fille qu'ils vont faire venir pour travailler dans leur maison, c'est une fille qui n'a pas d'honneur, et peut-être qu'elle a des mœurs un peu bas, et des mœurs un peu déficientes, et que à cause de ça, elle propage la corruption dans la famille, surtout avec les jeunes garçons dans cette maison-là, dans cette famille-là. Et donc, à cause de ça, il y a des effets néfastes, illimité. Et le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire de façon générale, c'est que la mère, si elle sort de chez elle pour aller travailler, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait avec les enfants? Et elle les amène, comme c'est le cas ici, à la garderie. Elle les amène à la garderie. Et il dit, donc, ces enfants-là deviennent comme des enfants qui ont été abandonnés. Hein? Luqata. Des enfants perdus. Ils ont comme s'ils n'avaient pas de parents. Et c'est vrai que dans la garderie, peut-être on va s'occuper d'eux sur le plan physique, c'est-à-dire on va leur donner à manger, on va leur donner à boire, hein, on leur donne une certaine éducation, on leur fait faire des activités. Mais qu'est-ce qui est le plus important au premier degré? C'est pas uniquement manger et boire, mais c'est les besoins intellectuels, les besoins religieux et les besoins spirituels de l'enfant, et psychologiques aussi. Et donc, c'est impossible pour ces gardiennes, ces éducatrices, de remplacer l'affection et la tendresse de la mère. Impossible. Il n'y a pas de comparaison. Et donc, ça c'est qu'est-ce que le cheikh a expliqué. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine pour expliquer la fin de ce point-là. Ou bien sinon, on va peut-être mentionner un petit point encore, parce qu'il y a un petit paragraphe, pas trop long, puis c'est pour terminer, disons, le sujet de la femme, parce que là, il passe à quelque chose d'autre. Il dit, وَقَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ. يعني بعد أن أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا وهذه النصائح العظيمة أخبرهم بأن المرجع الذي يرجعون إليه في أمورهم كلها وحل مشاكلهم كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك السنة فإنها من كتاب الله عز وجل ووحيه. Donc le cheikh il dit que ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم il dit dans le sermon et j'ai laissé deux choses ou bien plutôt j'ai laissé parmi vous une chose si vous restez accroché à celle-ci vous n'allez jamais vous égarer, c'est le livre d'Allah. Le livre d'Allah. Et après, donc le cheikh il dit, et après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné le bon conseil, il leur a donné ce testament, hein, et des bons conseils, il leur a informé que la référence vers laquelle ils doivent retourner dans toutes leurs affaires et pour régler tous leurs problèmes, c'est le livre qui a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on fait entrer là-dedans également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ça fait partie aussi du livre d'Allah. Puisque la sunna est une révélation, comme le Coran. Hein? Et le cheikh il dit donc, c'est une référence. Et le cheikh il dit, fal marji' fi ma ashkala alayna min umuri dinina wa dunyana innama huwa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Qala subhanahu فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فلا يجوز الرجوع إلى الأنظمة والقوانين الوضعية وترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que la référence lorsqu'il y a un problème dans nos affaires religieuses ou dans les affaires de la dunya, c'est uniquement le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59 dans sourate An-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, c'est-à-dire au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Et il dit si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Et donc le cheikh il dit il n'est pas permis de ramener nos différends et nos conflits et nos problèmes au système et aux lois inventées et fabriquées par les hommes. Et de laisser de côté le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pour le croyant, la référence c'est la loi d'Allah, c'est la révélation d'Allah et non pas les lois que les hommes se sont écrites eux-mêmes avec leurs propres mains. Qui es-tu toi, être humain, pour t'écrire des lois puis déterminer qu'est-ce qui est légal et illégal, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis? Yanni, qui te donne ce droit-là au-dessus des autres? Hein? Ça c'est complètement absurde. Et donc c'est pour ça que Allah, le Créateur, lui il a déterminé des lois, il a révélé ça à des messagers et c'est ça qu'on doit suivre pour être bien guidé. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on continuera ça la semaine prochaine. Demain, il y a à la même heure qu'aujourd'hui le cours de Kitab al-Kaba'ir. Kitab al-Kaba'ir, c'est-à-dire le livre des péchés capitaux ou des grands péchés. Et donc ça c'est avec encore une fois les explications de Cheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.